Alleluia, Alleluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, à quoi le royaume de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Jésus dit encore, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et ton évangile, Seigneur, s'inscrit dans nos âmes. Qui nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louange à toi, Alléluia.
Louange à toi. Alléluia, louange à toi. Alléluia,
louange à toi. Alléluia, louange à toi. Alléluia, louange à toi. Alléluia, louange à toi. Alléluia. Louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia. Que ton évangile, Seigneur, pénètre toute la terre, jaillisse au fond des âmes, les baptise de ta lumière, ta bénédiction, et qu'elle lève jusqu'à l'ouverture des temps. Des portes de la Jérusalem, s'ouvrant sous leurs cieux, dès cette terre, les libère de toute entrave, et nous lave de toute faute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia.
Célébrons la messe pour baptiser l'enfant qui non est l'enfant. J'avais remarqué d'ailleurs que quand on chante les psaumes, hein, ça marche très bien. Hein, oui. Quand on chante le psaume. C'est Isaïe, chapitre 38, le psaume d'Isaïe, là, est magnifique pour les enfants. Hein. C'est comme on a chanté tout à l'heure. Le fil de ma vie est tranché, et puis on voit tout ce que l'enfant en est, chante comme ça. Là. Trop beau. Je bondis de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta droite me soutient. C'est beau. Et je vais passer toutes mes années dans la mort. Je vais passer toutes mes années dans la mort. Ils sont encore dans le cycle des années, vous savez. Mais dans un état de séparation et en même temps d'union. La croissance de l'humanité se fait comme ça. Chacun avec sa vocation. Il y en a un qui est prêtre et l'autre qui est charpentier. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que le charpentier est plus petit que le prêtre ? Pas forcément. C'est pas une question de... Voilà. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. On s'en rend bien compte. On s'en rend bien compte qu'il y a une différence énorme entre une torche qui est posée là, dans la poussière et au fond d'un grenier oublié, et une torche qui brûle admirablement devant le Saint-Sacrement. C'est la différence entre nous et eux. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, sauf si on est comme eux. Alors, les hommes de la terre sont comme des torches oubliées. Mais le royaume de Dieu est au milieu pour les enfants qui passent leurs années dans ce qui fait enthousiasmer, brûler et embrasser la droite du Très-Haut dans l'embrasement céleste avant même qu'ils puissent le voir. Alors ils jouent sur leur sitar, bénissent, ils bondissent de joie dans la droite du Seigneur, et ils sont dans l'espérance, ils jubilent. Le royaume de Dieu est fait pour les petits, c'est tout. Chaque fois que Jésus dit ce que c'est que le royaume de Dieu, c'est pour montrer que c'est un enfouissement dans la petitesse. C'est beau aussi, hein, c'est vrai, c'est cette parabole que Jésus dit, voilà, la femme, le royaume de Dieu, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? On sent très bien que Jésus, à ce moment-là, a mis un silence, il a dit, hein, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Jésus aimait beaucoup sourire. Et puis, à quoi pour comparer? Et puis il regardait le pauvre Simon Pierre qui était là, qui ouvrait les yeux, la bouche. Alors ça le faisait sourire. Comme si il aurait voulu faire croire à Simon Pierre qu'il était dans l'embarras. Tiens. À quoi je vais comparer? Il suffit de regarder effectivement la bouche de Simon Pierre, que du coup, il devait être très embarrassé, Jésus, pour savoir comment le comparer. Royaume de Dieu, moi j'aime bien Simon Pierre. Il y a une complicité entre les deux. C'est une femme, oui. Je vais le comparer. C'est comme une femme qui enfouit trois immenses mesures de farine. Qui fuit du levain. Un petit peu de levain dans trois immenses mesures de farine. Jusqu'à ce que le pain est levé. C'est beau, ça. Alors, c'est quoi ces trois grandes mesures? Alors là, vous voyez, alors vous pouvez... On peut en dire des choses là-dessus. Hein. Le royaume de Dieu. Bon. Petit à petit, vous savez quand même... Tiens, mais oui, ça... Qu'est-ce que ça peut représenter, ça? La femme, l'épouse, elle trouve sa sponsalité en enfouissant petite graine de levain dans trois immenses mesures de farine. L'infiniment petite, la transsubstantiation eucharistique, l'épouse est... l'immaculée, enfin je veux dire, la foi immaculée de notre vie, enfouie dans l'infiniment petit, et qui traverse tous les infiniment petits de l'unité de la création tout entière, et de chaque élément, les trois grandes mesures qui s'y trouvent, il y a l'eau, il y a le sang, l'Esprit Saint, l'immense mesure de l'eau, l'immense mesure du sang, l'immense mesure de l'Esprit Saint qui sort d'infiniment petite la blessure du cœur, enfin, de l'époux. Hein. Et c'est jusqu'à ce que, c'est pas jusqu'à ce que je communique, c'est jusqu'à ce que la pâte est entièrement levée dans l'infiniment grand, hein, de l'unité de la création tout entière. Hein. Dans la communion donnée partout, toujours et à jamais, pour l'éternité. C'est ça, le royaume de Dieu. Ah, c'est... Oui, c'est... Le royaume de Dieu est... Quand on regarde d'une manière spontanée, c'est-à-dire dans l'acte intérieur qui réalise ce qui signifie dans le cœur sacré de... Marie, enfin, dans notre cœur sacré, enfin, dans l'âme sacrée, lumineuse, vivante, torrentielle, pacifique, divine et céleste, élargie dans le miracle des trois éléments à l'infini, dans la substance, et au-delà de tout. Et c'est trop beau, c'est le lien d'infiniment grand de la vie divine, c'est l'eau. L'infiniment grand du sang, c'est cette inspiration passive. Quand l'inspiration passive de l'épouse elle-même, la deuxième personne de la Trinité, se conjoint, enfin bon, l'inspiration passive du Saint-Esprit, alors il y a cette goutte de sang qui coule. Une seule goutte de sang. Elle est immensément grande. Et puis, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, parce que émane de là une lumière. Et l'Esprit Saint devient la lumière qui brûle les entrailles du Père. C'est le trône. Tout dévoilement du secret de la sponsalité se trouve là, dans le trône. Les sept anges de la face de Dieu sont... les sept anges de l'Apocalypse, vous voyez, ben, ils sont dans le trône, au cœur de son intériorité, et face à face. En même temps. C'est le terme d'accomplissement. On n'a pas entièrement levé. La sponsalité est quelque chose d'immense. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour dans la toute petitesse du don. Et puis à travers des paraboles que Jésus donne, c'est là qu'on voit quand même que les paraboles que Jésus donne sont quand même Elles sont simples, mais elles sont fortes. Oh, chacun peut le prendre à son niveau, à lui. Mais lui, il le prend au niveau de la... Il le prend à son niveau, à lui. Il le dit, il le prend à son niveau, à lui. Mais chacun peut le prendre à son niveau, à lui. Bah oui, très bien, voilà, la femme. Voilà, une femme. Bon, le royaume de Dieu, c'est quand quelqu'un, une femme, bon, très bien, rentre, va faire du pain, voilà. Elle fait du pain, puis le pain, il faut qu'il lève. Très bien. Et ben, elle va mettre quoi? Ben, elle va mettre de la foi, de l'espérance, de la charité. C'est ce qu'il y a de plus grand en elle, peut-être. Ah oui, les gens disent, oh là là, j'ai une super interprétation, là. Chacun va se tenir avec son interprétation. Grandes mesures, des grandes mesures de farine, des mesures... Après tout, les grandes mesures de farine, il y a beaucoup, 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 beaucoup. Dans cette immense mesure de farine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points minuscules qui composent la grande mesure de farine. Un grain de farine, enfin une petite poudre de farine, un petit grain de rien du tout. Ça en fait beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a trois grandes mesures comme ça. Et la femme, elle n'arrête pas de mettre... Enfin, elle met du levain. Et elle le fait continuellement, si je puis dire. Enfin, oui, on sent que c'est continuel, puisque c'est jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... La pâte est entièrement levée. Et si vous mettez trois grandes mesures de farine, vous mettez du levain dedans, la pâte ne monte pas. Puisqu'il faut de l'eau. Il faut que la pâte s'empétrit. La farine, ça suffit pas. Il faut quand même la faire, sa pâte. Et donc, voilà. Qui va faire ce travail? Le royaume de Dieu, voyez, c'est... Qui va faire ce travail? Ce travail continuel jusqu'à l'accomplissement de tout. On sait très bien que le travail, c'est la première personne de la Très Sainte Trinité qui le fait. C'est l'époux qui fait le travail, qui fait la pâte. C'est le lieu d'amour, de fécondité pour l'oreiller, d'amour et puis de... Et de splendeur de l'Esprit Saint, voyez, qui se fait dans l'unité du Père. Le Père est l'unité de la création toute entière, dans l'unité de la Très Sainte Trinité, dans l'essence même qui fait la divinité du Père. Voilà. C'est une seule unité, hein, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose. Le travail de l'un, cette unité de lumière, d'amour, de grâce, de force, d'éternité, de puissance, de recueillement, de transformation, d'accomplissement. Oui, c'est extraordinaire. Le Père travaille. C'est le Père qui agit. Et quand on est dans la cinquième demeure, la femme, c'est la cinquième demeure. Le cinquième sceau, c'est la femme. C'est la femme, c'est vraiment ça. La cinquième, c'est forcément. Donc là, elle apporte la toute petitesse de son levain, c'est-à-dire... Ce qu'elle est dans la toute petitesse de son insignifiance, dans l'abandon, dans la disponibilité, et c'est dans l'immensité de la Très Sainte Trinité, recueillant toutes les saintetés immaculées de Marie, successives. Il y en a eu des saintetés successives de Marie. Une seule sainteté successive, une sainte sainteté parmi ces myriades de saintetés. D'actes de Marie, c'est immense, c'est des mesures immenses de farine. Elles sont le levain qui permet au Père de faire l'unité avec sa vie. Et c'est lui qui fait le travail. Il l'assume. À la cinquième demeure, on est assumé par la première personne de la Très Sainte Trinité. Il l'assume. Et c'est lui qui fait le travail jusqu'à ce que la pâte est entièrement lavée. Et elle lève très vite parce qu'immédiatement Saint-Esprit se lève. Et le Verbe se conçoit dans l'incarnation. Le royaume de Dieu, ça peut très bien être, vous voyez, cette femme qui crée une espèce de chemin qui nous exprime dans l'instant fulgurant du oui de Marie et de l'incarnation du Verbe. L'immensité gigantesque de la sainteté de Marie. Et en même temps, l'immense petitesse de son don qui fait lever tout et permet, au fond, cette assomption, ce travail du Père. Plus on est petit, plus la responsabilité est gigantesque. Et les oiseaux viennent se réfugier dans les branches de l'arbre de la vie. Ah, ça, c'est beau, ça aussi. Hein, comme à quoi, alors, Simon-Pierre qui dit... alors, Jésus, il fait une deuxième parabole. Bon, ok, ça va. Il voit bien que Simon-Pierre n'a pas bien saisi ce qu'il voulait dire. Alors, il prend une deuxième parabole. Simon-Pierre n'arrive pas à comprendre. Alors, il rit. Il sourit, Jésus. Il joue avec nous. Mais alors, c'est trop fort. Je dis, bon, à quoi je vais pouvoir comparer avec... On mettrait ça dans un film. Hein, avec ce brave Simon. Alors là, évidemment, c'est une énigme pour Jésus. Hein. Comment est-ce qu'on va trouver une parabole? Alors c'est l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la vie à partir de la toute petitesse. Oh, t'es jeté dans un jardin du paradis. Dans le jardin du paradis, il a jeté une petite graine de moutarde. C'est amer la moutarde, hein, parce que alors on a jeté dans le jardin du paradis. L'homme s'est jeté dans la minusculité minable du péché originel. Mais grâce à Dieu, c'est tombé dans le jardin du paradis. Il a jeté, c'est-à-dire dans la terre promise de Marie, dans l'Immaculée Conception, et ça a fait l'arbre de vie. Ah, que c'est beau ça. Là, Jésus va prendre cette parabole, il va dire, là au moins j'espère que Simon va comprendre que je parle de ah oui, là, il va comprendre, parce que quand même, le parabole, c'est fait pour comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Et tout le monde comprend tout de suite. Donc là, il est bien embarrassé pour trouver le truc qui est le plus facile à comprendre directement ce qu'il veut dire. Mais il est quand même bien embarrassé parce qu'il se demande si ça va être compris tout de suite. Il est embarrassé. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? C'est beau ça. Et aussitôt, miracle des trois éléments, tous les anges, les oiseaux, c'est les contemplations pures, hein, se réfugier dans. Ah, c'est génial. Heureusement qu'ils donnaient les paraboles comme ça, et puis le soir, il y avait toujours. Ils étaient toujours. Je suis sûr que c'était les fils du tonnerre. Le Bonnergues qui se mettait là et dit allez, et puis là, il dit, Seigneur, tu peux pas nous expliquer la parabole. Est-ce que ce serait pas ça ou ça? Et j'ai su aimer bien Jean pour ça, parce que Jean percevait. Et c'est marqué dans l'évangile que Jésus n'a pas leur expliqué qu'il y avait derrière la parabole. Rien à la doctrine de l'Église. Elle n'est pas dans l'évangile. Elle n'est pas explicite. Elle est si on désire savoir, si on désire voir. Pour ça, il faut être jeune, il faut être contemplatif. Jésus les appelait Boanerges, fils du tonnerre. Tandis que Pierre, il ne l'appelait pas comme ça. Il disait, Simon, tu t'appelleras Kepha. Oh, Gilles. Ben, c'est bien. C'est ce rocher qui sera pendu. Hein, et qui donnera les eaux, sera abondante à la vie. Et quand l'ange a frappé le rocher de Gédéon, avec son bâton, de la croix, il est sorti du feu. Alors, et voilà, c'est. Et Jésus a mis les trois ensemble, Pierre, Jacques et Jean. Comprendre le mystère de Marie à la transfiguration. Après avoir ressuscité deux fois la fille de Jaïr, la fille de la synagogue, la vierge de la synagogue, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est là. Tu peux le dire. Tu sais. À ceux qui sont loin, loin, loin. Apparemment. Tu mets le royaume de Dieu est là. Au milieu de toi. T'as pas expliqué, t'as pas à prendre de part, mais le royaume de Dieu est là. C'est, Dieu est là. C'est le royaume de Dieu est complètement à l'intérieur de toi. Souvent, les gens disent, oh là, je suis à tellement milliards de kilomètres de Dieu, je suis tellement rempli d'horreur dans ma tête, tout ça. Le royaume de Dieu est au milieu de toi. Nous annonçons la bonne nouvelle. Parce que la graine a été jetée dans le jardin. C'est l'Immaculée Conception, alors. Et c'est vraiment une graine de moutarde. Hein. Le royaume de Dieu est là. Et du coup, ça y est, tu es. T'inquiète pas, tu ne peux pas être plus proche, tu ne peux pas être plus grande, tu ne peux pas être plus intime avec le royaume de Dieu, c'est sûr. Enfin, la plénitude du royaume de Dieu, on ne peut pas ne pas le voir quand je te vois, on ne peut pas ne pas voir que ça y est, tu y es. Alors il dit, attends, moi je... Et puis, il va hausser les épaules, mais enfin quand il va repartir, il va dire, tiens... Ça avait l'air tellement évident pour... Quand il m'a dit ça, il a dit, moi je croyais qu'il me considérait comme étant le damné par excellence. Et dans la sponsalité, c'est pareil. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alors on entend quelquefois, hein, c'est vrai. Le mari qui dit ma femme, elle est vraiment dans la réprobation, elle est complètement pourrie, quoi. Dans la sponsalité, le royaume de Dieu est au milieu. Là, il est là. Et je le vois bien. Le miracle des trois éléments se voit tout de suite, puisque dans la sponsalité, c'est immédiatement le corps spirituel. fait resplendir l'arbre de vie dans le ciel de la résurrection. Il est là et il est immédiatement là. Et complètement. C'est pour ça que la lecture qu'on fait là sur... avec la voix du Sacré-Cœur, c'est beau. L'homme, l'époux, quoi, aime sa femme comme son propre, comme son corps. Enfin, le corps spirituel, quoi. Ça aussi, c'est beau, parce que vous voyez, regardez, c'est beau ça. On l'a entendu déjà. On l'a entendu dans la nuit, ça, cette parole-là. Mais tu peux pas prendre les paroles de Dieu à la lumière de Freud. Hein. Je suis désolé, le père Drewermann se trompe. Puisque la seule lumière qui permet de comprendre les paraboles et l'évangile de Saint-Marc, par exemple, c'est Freud. Il n'y a pas d'autre lumière, il le dit, pour comprendre. Non, ben, 3 millions d'exemplaires. Et il en a écrit d'autres bouquins. C'était par million. Tout le monde dit ça. Tout le monde disait ça. Moi, je me suis coltiné un. Et je vous assure que je n'ai pas touché à aucun des autres. Parce que je voulais voir à quel point les gens étaient stupides. Ça paraît invraisemblable. Mais non, l'homme doit aimer... aime sa femme comme il aime son propre corps. Tu dis ça à la lumière de Freud ? Oh, purée ! Oh, oh, oh. Oui, tu comprends, parce que Freud, il comprend les détresses intérieures psychiques de l'homme. Lui, il est blessé. Tu comprends ? Il est blessé. Il est traumatisé par son père. Il y a des pardons qui n'ont pas été donnés. Il est blessé. Ah, ici, oh là, ça c'est une cristallisation. Oh là là, là c'est un déplacement. Oh, là, t'as vu, scotomisation. Oh, dis donc. Là, un sentiment de culpabilité. Ah, là, oh là, dérive négative. Ah, transposition. Ah, oh là là. Alors, t'as toutes les analyses, t'as les traumatismes, le machin, les conséquences, les nœuds. C'est... Et Jésus, lui, il connaît le mal que ça fait dans l'âme psychique de l'homme. Alors du coup, il parle pour sauver, guérir le mal qu'il y a dans l'âme de l'homme à cause de toutes ces... tout le mal qui s'est fait. Et puis, et donc, il vient apporter la bonne nouvelle, oui, l'évangile, pour dire, voilà, je vais guérir ce traumatisme, ce déplacement, cette cristallisation, ce machin, dévoilé. Donc, si je veux comprendre ce qu'il fait, c'est uniquement en voyant en quoi consiste ce mal psychique avec tout. Voilà, il est dans un état fusionnel. Dans un état fusionnel. Mais ça, c'est un transfert. Ça, c'est un... Alors, une fois que tu connais très 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 bien tous les mécanismes des dérives positives, négatives de la conscience ou du sentiment de culpabilité, ça y est, tu peux comprendre tout l'évangile. Drewermann. Il n'y a pas d'autre signification. Il n'y a pas d'autre. Bon, je veux bien que le psychologue puisse se servir de l'évangile pour faire sa psychologie de bas étage. Mais que ce soit la seule, quand même. Et je comprends, moi, que les gens qui s'approchent de ça, ils se lèvent en applaudissant pour dire le Saint-Père, il vaut mieux pas qu'il parle. L'Église, il vaut mieux qu'elle se taise. Puisque c'est Freud qui doit parler. Des cathos, il y avait des représentants de la bioéthique, de la communauté Emmanuel qui était là. Ils applaudissaient. C'était ahurissant. C'est pas des cathos moyens. Hein. c'est vraiment canon, hein. Bien sûr, la lumière, c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière de Marie seule. Il faut comprendre le royaume de Dieu. Enfin, la cinquième demeure d'une transformante seule. Enfin, seule. Oui. Essentiellement. Il faut comprendre le mystère du royaume de Dieu. Ah, ces trois-là, ben Jésus, on est sacré. Et puis du coup, ils amènent sur le tabord. Et ça crée ce dévoile, justement, lorsqu'il s'agit, parce que le mettre sur le boisseau, pour que ça soit clair, c'est de dire qu'il a donné le secret de l'Immaculée Conception à ces trois-là, et puis aussitôt il est monté sur le sommet de sa montagne, du Tabor, le mont Tabor a quelque chose de beau, là, au-dessus de... Tout près du lac de Tibériade, là. Et là, il est monté dans le sommet, sûrement d'abord avec ces trois-là. Si Plotin, quand il parlait et s'exprimait, il donnait la surabondance de sa contemplation actuelle, Jésus, quand il a donné le secret à ses apôtres, hein, forcément, c'est les membres vivants de son corps mystique vivant, donc forcément, ça va rebondir en lui. Et il va donner la surabondance de ce qu'il vit, et aussitôt, il est transfiguré parce qu'il assimile immédiatement ce qu'il vient de dire dans le mystère de l'Immaculée Conception. Et c'est pour ça qu'il y a cette transfiguration sur le mont Tabor. Parce que quand quelque chose est en train de naître dans la parole du Verbe de Dieu, dans la chair, aussitôt il est dans l'accomplissement de son corps spirituel accompli. Et donc il y a la transfiguration, c'est normal. C'est le mystère de Marie dévoilé comme ça. Si, mais surtout n'en parlez pas, hein. Bien sûr, l'homme va aimer sa femme comme son propre corps. Ah bon, la femme, c'est... donc l'homme, c'est vraiment, hein, Napoléon. Et sa femme, c'est comme son corps. En mettant son corps, c'était quoi? Il avait mal au foie. Ça peut pas être comme ça qu'on interprète la parole de Dieu, c'est pas possible. Rendez compte, les pauvres séminaristes, pendant 8, 9, 10 ans, on les bombarde avec ça. Les pauvres. C'est triste. Il faut vraiment être johannique, il faut être dans le relèvement d'Israël, Saint-Jacques. Il faut être avec le Saint-Père, hein, dans la doctrine infaillible, descendu du ciel. Pour interpréter la parole de Dieu, je veux dire, dans son sens littéral. Dans son sens littéral. C'est mon royaume, le royaume de Dieu. Je suis jeté dans l'Immaculée Conception. Et le Verbe de Dieu aussi était jeté en terre. Dans le jardin. Et vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a fait la création, l'acte créateur de Dieu, c'est pas le Big Bang, puisqu'on sait maintenant qu'il n'y a pas eu de Big Bang. L'existence du Tachyon prouve que le Big Bang n'a jamais existé. Donc continuer à dire aux autres, oui, le Big Bang, bien sûr. Le Big Bang, c'est un miracle. Vous savez que ça n'a jamais existé. Mais ça, on le sait aussi maintenant. Mais à quoi on va comparer alors les origines de notre univers? Ils sont bien embarrassés. Mais non, la créateur de Dieu n'est pas derrière nous. Ouais, la foi. Quand on parle souvent, quelquefois, il y a des gens qui disent de parler de franc-maçonnerie. Ils ont une image de la création venant du grand architecte. Hein? Grand architecte, il a un procès, et puis il fait les harmonies imparfaites de notre univers pour qu'on puisse, voilà, s'associer à ce grand démiurge. Et puis l'amener à quelque chose de tranquille, ou du moins de conforme à l'inspiration de l'architecte en question. Alors Dieu, il est derrière, vous comprenez? Et on est le prolongement de ses mains. Et Dieu, il crée, la créateur de Dieu, il est derrière nous. Et puis c'est tout. Mais non, la créateur de Dieu... Nous avons fait la démonstration de l'existence de l'acte pur, créateur de tout ce qui existe. C'est l'acte pur, c'est l'intellect qui a proté, hein, au-delà de tous les temps et tous les lieux. Donc c'est à partir de la cause finale que Dieu crée. C'est pas une cause efficiente. Le Big Bang n'existe pas. Quiconque est un peu intelligent, qui parle complètement idiot, comprend que la créateur de Dieu, ça appartient à la fin. Et le sommet de l'accomplissement de ça, la créateur, c'est l'Immaculée Conception, dans son accomplissement. Et donc c'est à partir de là qu'il crée tout ce qui existe. Rien n'aurait été créé si pas d'abord dans le principe l'Immaculée Conception. Voilà ce qu'explique Moïse dans le Midrash sur le Bereshit. Ah oui. C'est chouette, je trouve, de savoir ça. Et donc, nous, on est... Après, nous, on est jetés dans le jardin. Et l'arbre de la vie. Cette rencontre entre nous, la création tout entière, imparfaite, totalement parfaite. Et la création parfaite de l'Immaculée Conception explique le développement de tout l'univers. De notre monde à nous aussi, tout intérieur. Et il est au milieu de nous, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Mais il est là à l'état pur. Ah oui, non, je suis trop moche. Trop pécheur. Heureusement, que tu n'es pas l'Immaculée Conception. Heureusement que tu n'es pas l'Immaculée Conception, s'il n'y aurait pas le royaume de Dieu, si c'est toi l'Immaculée Conception. Mais le royaume de Dieu est au milieu de nous, parce que Dieu est créateur, et c'est à partir de la cause finale. Je suis jeté. Elle est belle, cette parabole que Jésus donne. Vous savez, quand Marie, elle a 8 ans, qu'elle a 5 ans, qu'elle a 13 ans, elle le voit bien qu'elle est sans péché. Elle voit bien qu'elle ne peut pas se marier. Garde cette lucidité sur tout ce qui existe, la créateur de Dieu, à partir de sa sainteté immaculée. Hein. Elle ne sait pas que c'est à partir de sa sainteté immaculée que tu as créé tout le reste, que tu as appelé tous à l'identification, à la transsubstantiation, à la transactuation surnaturelle d'Immaculée Conception dans son accomplissement final de la gloire de Dieu. C'est même pas l'ange qui lui dit qu'il faut, mais si, qu'il faut que tu te maries. Non, c'est pas l'ange qui lui dit. C'est l'obéissance. obéissance. Parce qu'elle voit, elle doit pressentir, même voir, je crois. Mais comme c'est une lumière immaculée, c'est une vision d'Assomption. Et donc, il faut bien que... Et dans cette vision d'Assomption, elle voit que le royaume de Dieu n'est pas là. Le royaume de Dieu n'est là que si elle se marie. Et c'est ce que lui explique l'obéissance. L'homme va aimer la femme comme son propre corps. C'est évident, c'est sûr. Le corps spirituel de Marie. Le corps spirituel de l'homme, c'est Marie. Quelque part, vous voyez, c'est... dire ça. Oui, puisque le corps spirituel, c'est l'émanation universelle, glorieuse, décollinante et surabondante de l'au-delà de l'Assomption de Marie, c'est-à-dire sa fécondité royale. Hein. Donc, c'est bien ça, le corps spirituel. Notre corps spirituel, c'est tout à fait... C'est beaucoup plus grand que mon unique humanité hein, d'homme. C'est grand, hein, la mise en place du corps spirituel, quelque part, hein, c'est vrai. Elle doit aimer son épouse comme son corps spirituel. Son épouse, c'est vraiment l'expression la plus proche dans la signification sponsale lumineuse et immaculée de son accomplissement, de son corps spirituel. Et on disait aussi dans la nuit que c'est pareil, il y a quelque chose comme c'est pour notre ange gardien, il y a quelque chose de semblable. Notre ange gardien nous est semblable, mais dans l'accomplissement de la lumière de gloire, de la vision béatifique, notre accomplissement, là, nous avons exactement, mais là, exactement, lui, sa manière spirituelle, pure et angélique, dans une intérieure de sa lumière, et moi, dans la petitesse de l'incarnation d'une matière parfaitement où Dieu glorifie parfaitement lui-même dans l'Esprit Saint, exactement la même couleur, la même sainteté, la même odeur, le même lui et moi, mon ange gardien et moi, il est l'état angélique de ma sainteté personnelle, la mienne. C'est extraordinaire, c'est une autre personne que moi, l'ange c'est une personne. Donc il y a l'ange qui m'est semblable dans l'accomplissement de l'arbre de vie. Et il y a aussi ma femme. Et enfin, il y a mon corps spirituel. Les trois sont identiques. Voilà les trois grandes mesures de farine, peut-être. Il faut bien que ça se lève dans la transactuation surnaturelle sponsale. C'est pour ça qu'il aime, vous voyez, sa femme. Et vous avez lu, comme on a lu, l'homme aime sa femme, la femme respecte son mari. Mais l'homme aime sa femme. C'est C'est terrible quand on voit ces femmes qui ne respectent pas. Ça fait mal, hein? Le royaume de Dieu est toujours là, de toute façon. Vous pouvez rentrer chez vous et il est là. Alléluia. Voilà, quelques bribes pour ce matin. Chaque matin, son amour se renouvelle. Et tous ces enfants qui sont loin d'être petits, tous ces enfants. Cet enfant-là, voilà qu'on va consacrer encore une fois dans ce baptême eucharistique. Tous ces enfants ont passé des années, des années, des années, des années. C'est des années, des années. Dans le mystère de la dormition, mais c'est une dormition éclairée, hein. C'est pas une dormition comme quand on vous met sous anesthésie et vous êtes dans le coma. 40 ans après, vous vous réveillez, tiens. C'est pas du tout, c'est une dormition éclairée. Marie, quand elle passe de la dormition à l'Assomption, elle voit tout. À l'instant de sa dormition, elle est dans la vision béatifique. Elle est en affinité avec la charité brûlante, la lumière de gloire qui embrasse le Sacré-Cœur de Jésus et tous les êtres de résurrection dans l'accomplissement terminal de la lumière de gloire à travers Baume. Elle voit tout ça dans la dormition. Elle n'a pas perdu connaissance. On dit bien ça, tiens, il a perdu connaissance. La dormition, c'est pas la perte de la connaissance d'un mystère de Marie. Elle voit tout. Alors, eux, ils sont pas petits. Ils ont passé des années et des années dans un état de dormition, c'est-à-dire de pleine de connaissance. Un état de dormition, ils sont tout à fait. Alors, si en plus, bien sûr, la lumière, c'est nous qui décidons, voilà, la lumière de l'Eucharistie pénètre, et du coup, ils la connaissent. Il y a de la. J'aime bien aller à Rome, c'est vrai, j'aime bien aller à Rome. Je vois toujours ces statues gigantesques des apôtres. Les apôtres sont des colonnes qui montent de la terre jusqu'au ciel, mais. C'est vraiment, quand on se voit sur la place Saint-Pierre, j'aime bien me mettre là en dessous, là, de Saint-Paul, ou Saint-Pierre, là. Oh, ou à Saint-Pierre. Je me mets en dessous, puis t'as l'impression d'être minuscule et. Alors c'est nous et les enfants, c'est nous et les. Et puis notre petit frère qui n'est pas né, mais. Nous allons prier, vous savez, il y a un petit peu de commisération. On va prier pour ces pauvres petits enfants non nés. Quand même. Ces pauvres petits enfants non nés. Mais Marie dans la dormition est quand même plus grande que nous. Vous savez. Comme si le temps s'était arrêté, quoi. Vous croyez quoi? Que l'avortement arrête tout? Mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. La mort n'a rien arrêté du tout. La mort, c'est une porte pour la vie. Si en plus la mort s'inscrit dans le temps, alors là, c'est la splendeur. Vous voyez, entre la dormition et l'Assomption, la mort s'est inscrite de Marie jusqu'à l'Assomption, ça y est, une durée de cette mort, dans la pleine lumière de la vision béatifique du ciel. Hein. C'est gigantesque. Et quand Jésus est mort, ça a duré 36 heures, le grand sabbat. C'est gigantesque quand la mort dure, comme ça. La mort arrête quoi? Elle n'arrête pas, elle donne une autre. Sitarisation de la sitar. C'est la sitar à la puissance du verbe. Vous comprenez, c'est l'immaculé, c'est génial. Il y a quelque chose, il nous faut ces géants de l'humanité dans le temps, de la mort vivante, de la dormition, pour qu'ils passent devant nous. Sinon, il n'y aura jamais l'ouverture des temps. Et nous, on va leur courir derrière pour qu'il y ait l'ouverture des temps, le cinquième saut de l'Apocalypse. Quand j'expliquais ça à Cotignac, à 8 décembre, je voyais bien les gens disaient, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, je vais prier pour mes tout petits enfants non-nés. C'est une petite boule. Ma petite boule. Oh. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ils aimaient bien quand même.